franceinter.fr.
Faut-il avoir peur des effets secondaires des benzodiazépines, ces médicaments dits anxiolytiques comme Xanax, Lexomil ou Valium, et qui sont largement prescrits chez les personnes âgées? Entre autres, c'est la question en tout cas à laquelle vous avez tenté de répondre, Christophe Tsourio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue et épidémiologiste, directeur de recherche à l'INSERM, et votre étude parue hier apporte des informations donc sur le sujet. Avec nous également pour en discuter, Dominique Dupagne, notre médecin généraliste.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Dominique. Élément important justement à préciser tout de suite, Dominique Dupagne, il y a deux types de benzodiazépines et les résultats de cette étude sont très différents selon justement le type de molécule dont on parle.
Disons qu'il y a une distinction un petit peu arbitraire entre celles qui agissent peu de temps, quelques heures, qui sont éliminées du sang relativement rapidement, et celles qui s'accumulent au-delà d'une journée, qu'on appelle les benzodiazépines à demi-vie longue.
Donc demi-vie courte et demi-vie longue.
Exactement.
Hein. Et quels sont les résultats à prendre en compte, Christophe Tsourio, pour ces deux types de benzodiazépines?
Alors, d'abord, notre étude, et je rappelle que c'est une étude de cohorte sur plus de 8000 personnes âgées que l'on suit maintenant depuis 15 ans, donc c'est tout l'intérêt des études de cohorte, et je me permets de le souligner, c'est de montrer que le fait de prendre des benzodiazépines est associé à un surrisque de démence, une augmentation du risque de démence et principalement de maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas la première fois que c'est dit. Il y a déjà eu quelques études, une demi-douzaine environ, qui ont déjà suggéré cette association depuis quelques années. Le fait de nouveau de notre étude, c'est de montrer effectivement que le risque serait beaucoup plus focalisé sur les benzodiazépines à demi-vie longue que sur celles à demi-vie courte.
Alors justement, quelles sont les quantités de risques associées à ces molécules particulières, Christophe Tsourio?
Eh bien, ce qu'on a observé dans cette cohorte, l'étude des trois cités, c'est une augmentation de 60% du risque de démence chez les personnes qui prenaient ces benzodiazépines à demi-vie longue par rapport à celles qui n'en prenaient pas, alors que pour celles à demi-vie courte, il n'y avait pas d'augmentation significative du risque de démence.
C'est justement ça, Dominique Dupagne, qui vous a intéressé dans cette étude.
Ben oui, moi c'est ça que j'ai retenu, parce qu'on lit beaucoup de choses sur les tranquillisants, on aime bien faire peur aux gens, et on avait des données qui étaient à mon sens assez contestables, parce que comme l'a fait remarquer le docteur Tsourio, on est dans un suivi de cohorte, donc on trouve des liens statistiques, mais ces liens statistiques ne sont pas forcément des liens de causalité, donc on se perd toujours en conjecture, on parlera tout à l'heure des biais qui ont été pris en compte.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement, oui, les liens statistiques, Dominique Dupagne?
C'est-à-dire, vous savez, j'appelais ça des stats à la con il y a quelques années dans l'émission, ouais. C'est-à-dire on part d'une constatation statistique, on en tire une relation de cause à effet. Et le docteur Tsourio est très prudent, il parle bien d'association, ce qui est parfois traduit de façon abusive par une cause. Mm-hmm. Et donc, dans le cas précis, on avait les benzodiazépines qui avaient été justement pointées du doigt comme pouvant favoriser des démences, alors qu'on avait juste un lien statistique. Et là, moi, ce que je retire surtout de cette étude et que je trouve très important, c'est que compte tenu du sérieux, de la prise en compte des biais, des facteurs de confusion, on peut dire que les benzodiazépines courantes, dont on reparlera tout à l'heure, c'est de la demi-vie courte, ne sont pas associées à un excès de risque de démence, et que donc c'est quand même un soulagement pour tous les gens qui sont forcés pour telle ou telle raison de consommer ces produits.
Sauf qu'on a aussi entendu le chiffre de 60% dans le cadre justement de ces molécules à demi-vie longue.
Oui,
alors avec les risques de démence, et là pour le coup...
Encore une fois, comme l'expliquent très prudemment les chercheurs dans leur publication, il y a une suspicion, il y a un doute, mais en aucun cas une certitude. Mais comme on dispose de ces fameuses benzodiazépines à demi-vie courte, les autres, pour lesquelles on a enfin des données qui laissent penser quand même qu'on a une sécurité, on peut traiter les gens facilement avec ces produits, on n'est pas forcé de prendre les demi-vies longues.
Christophe Tsourio, peut-être voulez-vous répondre sur les biais liés à l'étude statistique?
Oui, et sur le commentaire qui vient d'être fait. Alors moi, je suis globalement d'accord. Je voudrais quand même amener une note de précaution un peu supplémentaire. D'une part, bien sûr, notre étude, comme n'importe quelle étude, ne répond pas à toutes les questions et ne peut pas répondre à toutes les questions. Et notamment, certaines études antérieures, et notamment celles faites par l'équipe de Bernard Bégaud, avaient été faites sur des durées encore plus longues, sur des bases de données encore plus longues. Et donc, il n'est pas complètement impossible que même les demi-vies courtes, in fine, soient associées à un surrisque de démence. Ce qui est clair dans notre étude, en tout cas, c'est qu'il y a une vraie différence de signal. D'autre part, on observe quand même avec les psychotropes non benzodiazépines, donc les antidépresseurs, là aussi on observe un signal. C'est trop tôt pour inquiéter qui que ce soit, on est peut-être parmi les premiers à le dire, mais ça laisse penser finalement que tous ces médicaments qui vont interagir avec la neurochimie du cerveau pourraient peut-être être facteurs de risque ou faire partie de mécanismes physiopathologiques accélérant le processus de démence.
Donc, mais alors, moi j'ai une question à vous poser.
Prudence globale par rapport à...
Oui, enfin, il y a une prudence globale, sauf qu'il y a un message quand même qui est transmis au public, et on sait bien que tout de suite immédiatement dans la tête des gens, on va se dire bah, si je prends ces médicaments, j'ai un risque accru de développer des démences. C'est ça qu'on entend quand même.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que les benzodiazépines à demi-vie longue, de toute façon, sont contre-indiquées chez les personnes âgées.
Donc, ils ne sont pas prescrits.
Elles augmentent le risque de chute, par exemple, et le risque de dépendance. Donc, de toute façon, elles ne devraient plus être prescrites. Donc, je pense que sans affoler la population, en moins, il faut renforcer ce message auprès des personnes âgées, des médecins généralistes, de ne plus du tout les prescrire. Et comme l'a dit la personne qui est intervenue, eh bien, si vraiment il y a une absolue nécessité de prendre quelque chose pour dormir, passez du côté des benzos à demi-vie courte.
Dominique.
Bien sûr.
Dominique Dupagne, quand on est médecin ou quand on est patient et qu'on entend la radio aujourd'hui, comment réagit-on? On va voir son médecin, on lui demande une demi-vie courte, docteur, s'il vous plaît.
Ah bah là, si vous voulez, les gens qui
C'est pas commun d'ailleurs, hein, de demander une demi-vie courte à son médecin quand même.
On est là pour informer les gens, et comme le disait le docteur Tsourio, de toute façon, nous médecins ne devrions plus prescrire que des demi-vies courtes, et on peut très bien se débrouiller avec ces médicaments-là. Je voulais juste répondre sur les psychotropes en général, c'est-à-dire les médicaments qui agissent sur le cerveau. Dans l'étude, sont classés dans les psychotropes, ce qu'on appelle les nootropes, c'est-à-dire les médicaments qui sont censés améliorer le fonctionnement du cerveau. Ce sont des trucs pas très utiles qu'on donne aux gens qui commencent à avoir des petits trous de mémoire et des problèmes pour essayer de les faire aller mieux. Et là, il y a un biais absolument monstrueux. Il est clair que les gens à qui on donne des nootropes parce qu'ils commencent à perdre un peu la tête ont plus de chances de perdre la tête. C'est un peu comme si on disait que les gens qui consultent un cancérologue ont plus de chances de mourir d'un cancer, si vous voulez. Là, il y a des biais qui sont monstrueux.
Christophe Sourion.
Oui, alors c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est vrai également du côté des benzodiazépines. Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que les personnes qui vont prendre un peu plus, par exemple, d'anxiolytiques, c'est parce qu'ils ont une anxiété particulière liée au début de leur démence. Vous voyez, les symptômes cognitifs de perte de mémoire ne sont pas encore si importants que ça, mais la personne les ressent néanmoins, il y a une anxiété importante, va prendre des benzodiazépines, mais ce n'est pas ça du tout la cause de sa démence. Donc c'est ce qu'on appelle un biais d'indication ou une causalité inverse. Alors c'est vrai aussi pour les psychotropes, et c'est précisément pour ça que dans notre analyse, nous avons fait des analyses extrêmement détaillées, avec une modélisation relativement compliquée, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais en particulier, nous avons vu que cet effet était plus important chez ceux qui précisément n'étaient pas du tout anxieux au moment où ils sont rentrés dans notre étude, ni n'étaient déprimés, ni avaient des troubles du sommeil. L'effet, au contraire, était beaucoup plus fort chez eux. Donc, vraisemblablement, on n'est pas du tout dans le cadre de ce biais d'indication. On ne peut pas complètement l'exclure. C'est le principe des études observationnelles.
Allez,
et c'est toute la force de ce travail, c'est d'avoir justement cherché à amenuiser ces biais en faisant des corrections, de les prendre en compte, ce qui n'avait pas été fait dans les précédentes études. Et c'est justement quand on prend en compte l'anxiété ou la dépression qu'on arrive à ne plus trouver de lien significatif entre la prise des benzodiazépines à demi-vie courte et la survenue d'une démence ultérieure.
J'aimerais ajouter que pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient savoir quel type de benzodiazépine ils prennent, on a mis sur la page de l'émission un tableau de l'assurance maladie qui résume médicament par médicament le type.
Dominique Dupagne, pour conclure, le message qu'on doit retenir là, de cette étude, c'est quoi, clairement?
Alors, le message de cette étude, c'est il n'y a pas de risque actuellement dans cette très belle étude associée à prendre des benzodiazépines à demi-vie courte quand on en a vraiment besoin. Il faut absolument éviter de prendre des benzodiazépines à demi-vie longue. Et puis, il faut mieux lire les études que les communiqués de l'INSERM qui sont parfois un peu réducteurs et qui ne donnent pas forcément toute l'information intéressante.
Merci Christophe Tsourio pour vos indications suite donc à cette étude. Merci à vous. Dominique Dupagne, salut Axel.
À demain Mathieu.
À demain. Au revoir.
Dans les coulisses de la COP21 avec reporter.net.
Et comme tous les jours, nous repartons donc vers la COP21 avec Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Alors ça y est, les blocages commencent autour des négociations visiblement.
Et oui, tout à fait. Les discours des chefs d'État lundi, c'était formidable, c'était beau, tout allait changer, mais voilà, ils sont repartis. On est rentré dans le quotidien de la négociation, un quotidien où l'impulsion des chefs d'État ne semble pas avoir été très efficace. Au quatrième jour, tout semble dans le marasme. Le texte publié ce matin compte encore 50 pages parsemées d'innombrables crochets. Il y a des dizaines de réunions et la négociation a été éclatée en multiples petits bouts en espérant qu'on réglera les points un par un, mais on n'y arrive pas. Et certains pays font de l'obstruction, notamment l'Arabie Saoudite.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fondamental qui se cache derrière ces blocages, Hervé ?
Si, bien sûr, et ça a été tout à fait exprimé vigoureusement par Nosifo Sakato Diseko, qui est sud-africaine et qui représente très efficacement le groupe G77 plus Chine, c'est-à-dire les pays en développement. Ce qu'a dit en substance Madame Sakato Dzeko, c'est que si les pays développés n'avancent pas fortement sur la question du financement, cela menace, et là je cite, cela menace l'issue de la conférence de Paris. Donc elle met vraiment le paquet sur la table, elle demande, et elle représente les pays du Sud, hein, qui le disent très clairement maintenant, pour avancer, il faut qu'il y ait un vrai engagement des financiers des pays développés, des pays riches, et qu'ils ne posent pas de conditions sur ce financement.
Quelle est la suite du calendrier, Hervé, alors, pour la COP21 ?
Sans doute un petit changement de méthode, moins de discussions éparses. Là, il y avait jusqu'à 70 réunions hier, c'est beaucoup trop, donc on va changer de méthode. Mmh. La présidence va chercher à faire un texte ramassé qui serait présenté samedi, et texte qui aura quel objet ? Il vient d'être lisible, notamment par les ministres qui vont commencer à arriver lundi et qui vont donner un tour beaucoup plus politique à la négociation politique, c'est-à-dire qu'il va falloir trancher et sortir de tous ces crochets qui nous paralysent.
Merci Hervé Kempf, reporter.net, le magazine de l'écologie, et un dossier complet, évidemment, en ligne gratuitement sur la COP21. À demain Hervé, bonne journée. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une bonne nouvelle pour nous les terriens, l'inversion du champ magnétique n'est pas pour demain, c'est ce que révèle une nouvelle étude du MIT qui contredit plusieurs théories catastrophistes qui prédisaient sa bascule imminente. Le champ magnétique est une sorte de bouclier protecteur qui préserve la Terre des radiations solaires et des phénomènes dangereux de l'espace. Son inversion entraînerait une bascule des pôles nord-sud, une avalanche de catastrophes naturelles et technologiques. Pas d'affolement donc, en constatant que l'intensité du champ magnétique était aujourd'hui bien supérieure à la moyenne des 5 derniers milliards d'années. Les scientifiques ont bon espoir qu'il se stabilise, voire même qu'il se renforce dans les années à venir. Et puis nous sourions davantage sur les photos qu'il y a 100 ans, c'est ce qu'ont démontré des chercheurs américains en analysant plus de 150 000 photos de classe depuis 1905. Après avoir établi un portrait type par décennie, ils ont pu mesurer le degré de la courbure des lèvres grâce à un algorithme de lecture photographique. Et les résultats sont clairs, si après l'invention de la photographie, les étudiants adoptaient plutôt un petit sourire neutre facile à tenir pendant la pause, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, les sourires instantanés sont davantage épanouis, laissant même apparaître leurs dents. La démonstration en photo est disponible sur le Facebook et le Twitter de la Tête au Carré.